Bienvenue à tous. J'aimerais me parler sur prier seulement ne suffit pas. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière sur « prier seulement ne suffit pas ». Nous avons commencé à voir tous les éléments qu'il nous faut ajouter à la prière. Nous poursuivons aujourd'hui sur ce thème. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que prier, c'est très bien. Si vous avez pris cette habitude de prier, c'est déjà une bonne chose. Et certains ont même compris que c'est nécessaire de prier tous les jours. Et c'est les disciples qui ont mis en ordre leur vie. Ils sont passés du stade de croyant au stade de disciple. Et quand vous devenez un disciple, ça devient une évidence qu'on ne peut pas sortir de la maison sans avoir prié, sans avoir présenté la journée au Seigneur. La prière devient comme un revêtement. D'ailleurs, la Bible, elle parle du vêtement de louange. Et c'est vrai que quand il fait froid dehors, s'il fait 0 degré, s'il fait moins 5, on va se couvrir, on va mettre un gros pull, un gros manteau, des grosses chaussures, parce qu'on sait que le froid, c'est mauvais pour nous. Eh bien, de même, le monde spirituel est un climat très mauvais. Et nous avons besoin d'être revêtus d'un manteau spirituel, c'est la prière. Et voyez, le psalmiste l'a compris au psaume 88, verset 14. Il dit « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. » Le matin. Avant même de quitter la maison, déjà j'ai présenté ma journée au Seigneur. Le matin, c'est un temps tellement important, c'est un temps tellement mis à part pour offrir à Dieu notre prière. Alors, on a vu plusieurs éléments la semaine dernière. Je les rappelle brièvement avant de poursuivre. Nous avons vu qu'il faut ajouter la foi à la prière, bien sûr, parce que si vous doutez, eh bien, vous anéantissez tous les bienfaits de la prière. C'est un petit peu comme si vous voulez allumer un feu et que vous jetez de l'eau dessus. Donc, ça anéantit ce que vous voulez faire. À la prière, il nous faut ajouter le pardon, parce que Jésus l'a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Là, il dit, si vous êtes debout en train de faire votre prière, mais que vous ne pardonnez pas, si vous êtes rancunier, si vous en voulez aux autres, eh bien, votre prière ne sera pas agréée. Il nous faut aussi ajouter à la prière l'obéissance, avec l'exemple de ces 10 lépreux qui sont allés vers Jésus pour prier et demander la guérison. Mais Jésus leur a demandé d'aller voir le souverain sacrificateur et ils ont obéi. Et l'obéissance est quelque chose que Dieu nous demande et qui plaît au Seigneur. Et puis nous avons parlé de l'humilité, car Jacques, dans son épître, dit « Quand vous demandez quelque chose, dites si Dieu le veut, et non pas imposer à Dieu vos propres décisions, vos propres désirs, mais nous devons toujours être humbles et prier si Dieu le veut, alors eh bien, ça sera accordé. » Je rajoute donc d'autres éléments, et le premier se trouve dans ce texte ici, Colossiens chapitre 4, verset 12, c'est « À la prière, nous devons rajouter la persévérance. » Colossiens 4, 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Et c'est la persévérance qui va faire la différence dans la prière. Parce qu'une chose est de prier, et puis se relâcher, et autre chose est de prier et de persévérer. Et la persévérance est aussi quelque chose que nous devons rajouter à la prière. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens, finalement, ont compris qu'il faut prier, oui, mais ils ne persévèrent pas. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas l'exaucement de leur prière. Donc, ils sont découragés, ils se relâchent, et puis quand les événements sont contraires, eh bien, ils abandonnent. Et c'est difficile de continuer à prier alors que vous n'êtes pas encouragé, alors que les événements sont contre vous. Et la tendance est de baisser les bras et de dire « Dieu n'a pas répondu, Dieu n'entend pas, Dieu n'exauce pas les prières, Dieu ne répond pas. » Mais si vous persévérez, comme ici Épaphras, qui continuait à combattre, il ne cessait de combattre, ça veut dire qu'il persévérait dans le combat spirituel de la prière, eh bien, vous irez plus loin que les autres. Vous irez plus loin parce que vous aurez persévéré. Il y a de nombreux chrétiens qui, finalement, n'arrivent pas à produire du fruit parce qu'ils ne persévèrent pas. Ils s'arrêtent au moment où ils devraient continuer à prier. Ils abandonnent, en fait, quand il faut intensifier la prière. Et c'est facile d'abandonner. C'est plus difficile de persévérer. Je peux citer l'exemple du prophète Daniel qui a reçu un ordre du roi Darius qui a imposé à tout le pays de l'époque l'interdiction de prier à quelque autre dieu que ce soit Darius lui-même, le roi. Et comme Daniel était croyant, eh bien, il faisait toujours monter sa prière vers Dieu et non vers ce roi. Et comme il y avait cette interdiction, eh bien, Daniel continuait, il persévérait malgré l'ordre du roi. Il avait mis sa confiance en Dieu. Mais voyez, sa persévérance, finalement, lui a porté préjudice. Parce que les officiers du roi sont venus chez lui, l'ont surpris dans la prière, ont rapporté au roi qu'il priait un autre Dieu que le roi. Et finalement, sa persévérance dans la prière l'a conduit à être jeté dans la fosse aux lions. Et c'est là où on est éprouvé, frères et sœurs. Parce que quelquefois, la persévérance aboutit au contraire de ce que nous aimerions. Et on va se retrouver dans des difficultés plus importantes, plus pénibles encore que si on n'avait pas persévéré dans la prière. Parce que si Daniel s'était soumis à l'ordre du roi, n'avait pas persévéré, en fait, il ne serait pas allé dans la fosse aux lions. Il aurait été tranquille chez lui. Et finalement, tout le monde aime bien la tranquillité. Et il aurait préféré rester tranquille chez lui. Mais sa persévérance l'a conduit à être jeté dans la fosse aux lions. Et ce sera pareil dans beaucoup de situations. Vous verrez que la persévérance, parfois, va générer des événements encore plus difficiles. Et c'est là où, naturellement, on aura tendance à dire, bon ben voilà, j'ai persévéré, j'arrête. Alors que même si les événements sont contraires, il nous faut encore persévérer malgré tout. Et c'est ce que Daniel a fait, il est allé donc dans cette fosse aux lions, mais si vous raisonnez humainement, vous direz, ben, il aurait pu être amer et dire, ben voilà, j'ai persévéré et finalement je suis jeté dans la fosse aux lions. Alors, à quoi ça sert de persévérer? Ou vous allez dire, ben, j'ai persévéré, mais j'ai plus de problèmes qu'avant. À quoi ça sert de persévérer? Mais la persévérance de Daniel a payé, et on le voit avec la suite, c'est que dans la fosse aux lions, Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions et qui n'ont fait aucun mal à Daniel. Parce que dans la persévérance, même si les événements sont contraires, Dieu veille sur ses enfants et il nous garde. Seulement, il fallait qu'il persévère jusque dans la fosse. Il a été gardé des lions. Et ce témoignage, finalement, il pouvait se dire, ben voilà, j'ai persévéré, ça tourne mal. Mais en réalité, sa persévérance a produit un bon témoignage, puisque le roi est venu dans Daniel chapitre 6, verset 20. Le roi dit donc à Daniel, croyant qu'il ne savait pas ce qui s'était passé dans la fosse aux lions, donc il l'interroge, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Voilà le témoignage qu'il avait laissé, beau témoignage au roi. « A-t-il pu te délivrer des lions ?» Quel témoignage allons-nous laisser autour de nous? Quel témoignage? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui persévèrent ou des chrétiens qui abandonnent quand c'est le temps de la prière, qui lâchent, qui désespèrent? Non. Daniel a donné un témoignage de persévérance. Et les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, verront votre persévérance. Et en tout cas, Daniel a témoigné par sa persévérance. Mais si vous êtes inconstant, si le témoignage n'est pas sérieux, si vous ne persévérez pas, si vous abandonnez, ben, à ce moment-là, vous perdez votre crédibilité. C'est arrivé à Lot, qui était pourtant un croyant, il aimait Dieu, mais il était tellement en compromis avec Sodome et Gomorre, les habitudes, que lorsque les anges sont venus pour le délivrer, ils leur ont dit « il faut partir ». Les anges lui ont dit « il faut partir ». Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Lorsque Lot a prévenu ses gendres, il n'avait plus de témoignage. Il n'avait plus de témoignage. Il n'avait pas persévéré dans les choses de Dieu et il paraissait plaisanter à leurs yeux. Voilà le témoignage d'un croyant qui ne persévère pas. Et quand les événements tournent mal, eh bien, on viendra chercher un chrétien et on cherchera un chrétien qui persévère. Parce que votre témoignage parlera pour vous, comme Daniel, le témoignage a parlé pour lui. Un autre verset auquel j'ai pensé, c'est un autre élément qu'il faut ajouter à la prière, c'est écouter la loi. Il faut écouter la loi dans Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, il prie, mais cette prière n'est pas agréée. Pourquoi ? Il faut écouter la loi, il faut aimer la parole de Dieu. Il s'agit ici d'une personne qui se détourne volontairement de la loi. Donc nous savons que la loi est bonne pour notre âme, qu'elle est notre nourriture. Et il n'y a pas meilleure nourriture sur la terre que la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu pour vous ? Est-ce que c'est votre précieux trésor ? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Est-ce que vous nourrissez de la parole de Dieu ? David en parle dans le psaume 19, au verset 11, et il parle des jugements de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Au psaume 19, verset 11, il dit « Ils sont plus précieux que l'or ». Voilà comment nous devons considérer la parole de Dieu, comme un trésor. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Et là, on voit une personne qui aime la parole de Dieu. Et si vous aimez la parole de Dieu, votre prière, elle sera agréée de Dieu. Mais si vous négligez la parole, si vous méprisez la parole, comme dit le texte, si vous vous détournez de la loi de la parole de Dieu, bien, votre prière sera comme une abomination aux yeux du Seigneur. Si vous vous détournez de la loi pour vous attacher à un autre trésor, en fait, c'est que votre cœur est partagé. Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Et votre prière ne sera pas agréée puisque le trésor de votre cœur ne sera pas la parole de Dieu. Il sera ailleurs. Ce sera un autre trésor, peut-être un trésor des richesses de ce monde, le trésor de la poursuite des biens matériels, la recherche du sport, du bien-être, le monde des plaisirs. C'est un autre trésor. Et donc, c'est la poursuite et la course à chercher des choses vaines. Voyez, l'Ecclésiaste a passé son temps à chercher sur la terre la joie et les plaisirs. Il écrit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 14. C'est un peu la conclusion de ce type de recherche vaine. Il dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici... tout est vanité et poursuite du vent. » Ça, c'est une recherche vaine. Vous cherchez un autre trésor, vous cherchez dans les biens matériels, dans l'argent, dans la richesse, dans la gloire, dans les perspectives de ce que ce monde propose, eh bien, vous allez voir que c'est comme si vous courez après le vent. Vous ne le saisissez pas, vous n'attrapez rien et votre cœur reste vide. Sans attachement à la parole de Dieu, en fait, votre prière ne sera pas agréée. Elle sera vue comme une abomination. Ce sera une liste de demandes. Vous ferez des prières charnelles centrées sur vous-même, sur vos besoins. Mais Dieu n'agrée pas toutes les prières. Et il le dit bien dans sa parole, il y a des prières qui sont pour lui comme une abomination. Mais plus vous allez connaître la loi, plus vous allez l'aimer, et si elle devient votre trésor, plus votre prière sera alignée et centrée sur la pensée de Dieu, et elle sera agréée de Dieu, parce que votre cœur sera nourri des saintes lettres de la parole de Dieu. C'est écrit dans 2 Timothée 3, 15 à propos de Timothée. Timothée qui a été élevé dans la foi, il est dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. C'est quoi les saintes lettres ? C'est la sainte parole de Dieu. Et si vous nourrissez votre cœur de ces saintes lettres, la sainte parole de Dieu, elle peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Votre cœur aura un vrai trésor. Et vos prières seront nourries de ce trésor-là, et vos prières seront agréées de Dieu, parce qu'elles ne seront pas des prières selon les désirs de ce monde. Parce que le monde met dans votre esprit des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu, mais la parole, elle met dans votre cœur des désirs qui sont ceux du cœur de Dieu. Et plus vous allez avoir le trésor de la parole dans votre cœur, plus votre prière va être en adéquation avec la pensée de Dieu. C'est ça qui va être agréé. Un autre élément qu'il faut ajouter à la prière, ça concerne ici les couples, il faut s'entendre avec son conjoint. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, et notez bien la fin, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, il y a des obstacles. Et il en cite un. Ben, c'est ici, c'est important de s'entendre avec son conjoint, parce que si on est dans les conflits, si on est dans les désaccords, dans les disputes, eh bien, ça crée un obstacle à la prière. Pourtant, la prière est bonne. Et c'est bon de prier et d'arriver même à prier tous les jours, mais on est en train de créer des obstacles à cette prière-là. Donc, ça anéantit la prière. C'est tellement important de prier tous les jours ensemble quand on est dans un couple, et pas de simplement de prier chacun de son côté. Prier pour le conjoint, prier pour les enfants, prier pour la famille. Il y a peu de couples qui finalement prient ensemble. Ils prient chacun de leur côté, puis après ils vont dans leurs réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont à faire, mais ils ne prennent pas le temps de prier ensemble. Et c'est tellement important pour l'unité du couple de prier ensemble. C'est spirituel. Et si vous ne le faites pas, si vous négligez cette prière, bien sûr, il est nécessaire de s'accorder et d'être dans le même esprit. Et si on néglige cette prière en couple, eh bien, le diable vient et il y met des brèches, de sorte que le couple va se tirailler, se diviser. Et en fait, c'est le plan du diable de détruire les couples et derrière les familles pour que les familles soient éclatées. Donc la prière ne suffira pas. Il est nécessaire de prendre un temps de s'accorder avec son conjoint. Et s'il y a des tensions, c'est nécessaire de communiquer, de partager. Il est demandé ici aux maris d'honorer leur épouse, de la valoriser, de dire du bien de leur épouse. Et ailleurs, c'est demandé aux épouses de respecter leur mari. Et tout cela se fait dans l'harmonie. Et c'est ce qui permet en fait que les prières soient agréées, les prières de ce couple. Mais si dans le couple, chacun ne pense qu'à soi-même, il ne prend pas le temps de s'accorder avec l'autre, eh bien, les prières auront des obstacles. Et finalement, on priera, oui, on priera même tous les jours, mais prier ne suffira pas. Il faut prendre le temps de s'accorder, de se réconcilier, de partager ensemble pour être dans le même esprit et prier ensemble. Et la prière d'un couple est puissante pour la solidité du couple et aussi pour les enfants. Parce que le couple, il prie pour les enfants, pour que Dieu les bénisse et que Dieu les garde dans ses voies. Alors, comment faire pour détruire ces obstacles? Puisque Pierre dit qu'il y a des obstacles à la prière, donc il va falloir les détruire. On voit que la prière ne suffira pas. Il va falloir changer d'attitude, avoir du respect pour son conjoint, entretenir l'amour. Et tout cela doit être fait pour anéantir les obstacles à la prière. Et pour s'accorder, il faut avoir cette volonté d'avancer ensemble. Il y a un verset que je cite souvent dans le cadre des mariages, c'est Ecclésiaste 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Ici, l'auteur de l'Ecclésiaste prend l'exemple de la corde à trois fils. Trois fils, dans le couple, c'est ça. Il y a le mari, il y a l'épouse et puis il y a le Seigneur qui permet cette unité, cette jonction. Et si vous honorez le Seigneur, si le Seigneur est à la première place, alors vos prières seront agréées. Si vous vous respectez, si vous le mari honore sa femme, si la femme respecte son mari, si vous vous honorez, si vous vous respectez, si vous vous aimez, à ce moment-là, les obstacles vont tomber et les prières du couple seront puissantes. Mais voyez que la prière en elle-même ne suffit pas. Il faut mettre en place les choses pour que cette prière pour qu'il n'y ait pas d'obstacles qui viennent empêcher cette prière. Un autre élément à ajouter à la prière, c'est maintenant le secours du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alors Paul commence par expliquer que, oui, on prie, mais finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui convient de demander. On prie, mais un peu à l'aventure. Et dans ce cas-là, on peut prier pendant des heures, mais complètement à côté de ce que Dieu veut finalement. On doit d'abord reconnaître nos faiblesses, on doit reconnaître que nous ne savons pas comment prier, ni pour quel sujet prier, que Dieu nous aide. Nous avons donc besoin du secours du Saint-Esprit. Et ici, il dit, c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Donc, on voit que le Saint-Esprit va inspirer les bons sujets de prière, et si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, bien, il va vous conduire à prier selon la volonté de Dieu. Et là, les prières seront agréées. On ne sait pas, mais le Saint-Esprit mettra dans votre cœur une direction, un sujet de prière, peut-être un besoin que vous ignorez. Et la Bible parle à plusieurs reprises des bienfaits du parler en langue et de la prière en esprit. C'est l'apôtre Paul qui en parle beaucoup dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens. Il parle de la prière en langue. Et il explique qu'il dit aux Corinthiens que moi, je prie en langue plus que vous tous. Ça, c'est la prière par l'esprit. Donc, il priait beaucoup en langue et il dit qu'il y a deux avantages à la prière en langue. Retenez bien ceci. Le premier avantage, il dit, quand vous parlez en langue dans la prière, c'est à Dieu que vous vous adressez en esprit et vous lui dites des mystères. Mais tout ce que vous dites dans la prière en langue, en esprit, c'est conforme à la volonté de Dieu parce que c'est inspiré par l'esprit. Et deuxième avantage, il dit, quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. Donc vous êtes en train de vous fortifier, de grandir, de progresser dans les choses de Dieu, parce qu'en priant en langue, en fait, vous êtes sûr de prier selon la volonté de Dieu. Tandis que, sinon, à la base, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas pour quel sujet prier. Nous ne savons pas comment nous diriger dans la prière. Donc ça, c'était encore un élément à rajouter. Vous voyez, la prière ne suffit pas. Il faut se laisser conduire par l'Esprit, laisser l'Esprit diriger nos prières, prier en langue. Ensuite, un autre élément qui est mentionné, qu'on peut rajouter à la prière, c'est le jeûne. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, le texte dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et vous voyez qu'à la prière, Jésus ajoute « et par le jeûne ». Donc si vous jeûnez, vous allez développer des forces spirituelles. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui vient pour son fils, qui était possédé d'un esprit mauvais qui le poussait dans le feu ou dans l'eau. Donc on pourrait dire un esprit de suicide. Parce que, en fait, le suicide n'est pas quelque chose de naturel ou de normal, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et même, il y a des puissances invisibles, des mauvais esprits, ici c'était des mauvais esprits, qui poussaient cet enfant à se suicider. Ce n'est pas normal de vouloir se suicider, c'est quelque chose d'anormal. Et donc, cette pensée que les mauvais esprits peuvent mettre dans votre esprit de vous donner la mort, bien, ça vient du diable. Je connais le témoignage personnellement d'un jeune qui a été élevé dans un foyer où on ne parlait pas du Seigneur, mais où plutôt on tournait les tables et on disait l'avenir aux gens, et sa mère en fait disait l'avenir aux gens. Il a été élevé comme cela, avec beaucoup de choses surnaturelles dans son foyer, dans sa maison. Il a été élevé comme ça. Lui-même est tombé là-dedans. Il est tombé dans l'occultisme, en fait. Il faisait même de la lévitation. Il raconte sur son lit. Il arrivait à décoller de son lit, à retomber comme ça. Et il était tellement habité de puissance que ces puissances, un jour, lui ont dit « Mets-toi à la fenêtre et jette-toi en bas. » Et c'était pour qu'il se suicide. Lui, naturellement, il n'avait pas envie de se suicider. Il n'avait pas envie de se donner la mort. Mais les puissances qui étaient en lui, lui donnaient cette pensée, jette-toi en bas, finis-en avec la vie, tu n'auras plus de problème. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Et il a eu la bonne réaction de ne pas le faire, et il est sorti dans la rue, il a senti qu'il fallait qu'il parte de cet endroit, sinon ça allait mal tourner. Et c'est dans la rue que des chrétiens distribuaient des invitations à une réunion d'évangélisation. Il a voulu échappé à ces chrétiens, et finalement d'autres l'ont rencontré ailleurs, et il s'est rendu à la réunion d'évangélisation. On a prié pour lui, il a entendu le message de l'évangile, Il a donné son cœur au Seigneur et il a été délivré de toutes ces puissances qui étaient en lui. Par la suite, il a été appelé par Dieu à devenir pasteur, puis évangéliste. Aujourd'hui, il est évangéliste. C'est l'évangéliste Franck Alexandre. Il prêche la parole de Dieu dans le monde entier. Mais ça a commencé par... il était habité par des esprits de suicide. Et il en a été délivré. Cette pensée de mort, de se jeter dans le vide, d'en finir avec la vie, n'est pas naturelle. Elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de puissances impures qui vous pousseront dans cette direction. Ne les écoutez pas. Et les disciples avaient bien prié pour cet enfant qui voulait se jeter dans le feu, qui voulait se jeter dans l'eau, ce n'est pas normal. Alors le Père a amené l'enfant aux disciples et ils ont prié. Et c'est bien de prier. Mais voyez, dans ce cas-là, la prière n'a pas suffi pour régler le problème. Et dans certains cas, il faudra ajouter le jeûne à la prière pour faire une percée spirituelle. Le jeûne, ça consiste à s'abstenir de manger pour prier. Et Jésus l'explique ainsi, qu'il était nécessaire pour ce type d'esprit-là d'associer le jeûne à la prière. Et quand vous jeûnez, vous permettez une percée spirituelle. Quand vous jeûnez, en fait, vous êtes en train de soumettre la chair à l'esprit. La chair a toujours des désirs contraires à l'esprit. Et le jeûne, c'est vraiment le moyen efficace pour briser le joug de la chair et marcher selon l'esprit. Et il faut arriver à cette direction-là par le jeûne. Plus vous allez mettre votre vie en ordre avec Dieu, plus vous allez chercher la présence de Dieu, plus il va y avoir des victoires sur la chair. Et le jeûne est un bon moyen d'écraser la chair. Maintenant, si vous ne jeûnez pas, si vous ne souhaitez pas jeûner, il y a peu de chances que vous soyez conduit par l'esprit. Mais il y a beaucoup de chances que ce soit la chair qui domine votre vie. Parce que, en fait, le meilleur moyen pour juguler la puissance de la chair, c'est le jeûne et la prière qui étouffent ses ambitions. Donc la chair, elle trouvera toujours le moyen de vous influencer. Si vous ne jeûnez pas, vous ne souhaitez pas jeûner, elle va vous pousser à regarder les choses sous un regard humain, elle va vous pousser à critiquer, à analyser d'un jugement, mais qui n'est pas spirituel, qui est vraiment... humain. Et quand vous êtes dans l'Église et que vous jugez d'une manière humaine, c'est une catastrophe. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors vous allez laisser la rancœur, la jalousie, tout cela va s'enraciner dans votre vie parce que finalement vous vous affaiblissez spirituellement. Alors tous ces symptômes, la rancœur, la jalousie, la critique, les jugements humains, tous ces symptômes doivent vous alerter que la chair a pris le dessus sur votre vie spirituelle. Et donc le jeûne et la prière est un moyen de discipliner sa vie et de faire taire la chair, de la crucifier, de permettre qu'elle soit tenue en échec, afin que ce soit l'esprit qui domine dans votre vie. Et ainsi, c'est la pensée de l'esprit qui dominera avec des pensées spirituelles. Et puis, je termine un dernier point qu'il nous faut rajouter à la prière, c'est la reconnaissance. Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et Paul rajoute « avec des actions de grâce ». Eh bien, rajoutons aussi des actions de grâce à la prière. Et si vous abondez en actions de grâce, c'est-à-dire en remerciement, eh bien, vous allez réjouir le cœur de Dieu. Beaucoup de chrétiens, finalement, prient, mais ne remercient pas. Ne passe pas du temps dans la reconnaissance et plutôt prie et puis finalement, ils se plaignent à Dieu de ce qui leur arrive. Et finalement, ils sont plutôt dans les plaintes et les gémissements. Mais soyons plutôt dans la reconnaissance. Ajoutons des actions de grâce. Parce que si on est toujours dans la demande et ceci et cela, finalement, il nous manque un point important que Paul mentionne. C'est la reconnaissance. Il ne suffit pas de prier, de prier, de prier, mais Paul dit « soyez reconnaissant, sachez dire merci ». Si vous êtes reconnaissant, vous allez remercier Dieu pour des choses que vous n'avez pas encore. La plupart du temps, on attend d'être exaucé pour dire merci au Seigneur. Mais le chrétien qui a compris l'action de grâce, il le saisit par la foi et il peut dire « Merci Seigneur », même s'il n'a pas encore la chose pour laquelle il prie. Et même si Dieu lui dit non, il est encore dans l'action de grâce, parce qu'il a compris que la reconnaissance, c'est une attitude de cœur. Donc quand Dieu ne répond pas favorablement, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'être reconnaissant et de dire ben, « Merci Seigneur ». Parce que si Dieu dit non, c'est mieux pour nous et c'est qu'il y a autre chose. Mais ne soyons pas amers et ne tombons pas dans le piège de dire ben, « Dieu ne nous a pas exaucé, Dieu ne nous a pas répondu, Dieu n'écoute pas ». Ça, c'est le piège dans lequel l'ennemi voudrait nous enfermer. En conclusion, ben, si vous priez tous les jours, gloire à Dieu, c'est déjà que vous avez franchi un premier cap, c'est de devenir un disciple et de réaliser que la prière doit faire partie de la vie chrétienne. Et vous prenez au sérieux la parole de Dieu, ça c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Mais une fois qu'on a réalisé l'importance de la prière et qu'on arrive à prier tous les jours, il nous faut maintenant réaliser que la prière seule ne suffit pas et qu'il nous faut mettre en place d'autres éléments. Je les rappelle brièvement, il nous faut rajouter la foi et croire quand nous prions que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Il nous faut pardonner si on a fait du tort à quelqu'un ou si quelqu'un nous a fait du tort, eh bien pardonnons-le. Il nous faut obéir à Dieu et à sa parole. En plus de la prière, il nous faut l'humilité. Il nous faut la persévérance alors que peut-être on a envie de baisser les bras, on est découragé, eh bien persévérons avec l'aide de Dieu. Il nous faut aimer la parole et écouter la loi. Ce précieux trésor, chérissons-le dans notre cœur. Il nous faut nous entendre avec notre conjoint, parce que sinon il y aura des obstacles insurmontables à nos prières. Il nous faut aussi le secours du Saint-Esprit. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander. Seigneur, guide-nous, inspire-nous par ton esprit, afin que ces prières soient des prières spirituelles et priez en langue si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Priez en langue si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, aspirez à être rempli du Saint-Esprit. Et puis le jeûne, dans certains cas, on voit que ce jeûne associé à la prière nous permet des percées spirituelles. Et puis soyons reconnaissants et rendons gloire au Seigneur. On va prier quelques instants. Merci encore pour ces exemples. Nous réalisons avec ta parole que la prière seule ne suffit pas, qu'il nous faut encore y ajouter tous ces éléments pour qu'elle devienne efficace, qu'elle soit agréée de toi, Seigneur, que ça ne soit pas comme une prière que tu désapprouves. Mais nous reconnaissons que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, nous avons besoin du secours de ton esprit. Viens, Seigneur, à notre secours, viens à notre aide, inspire-nous les sujets qui vont plaire à ton cœur. Inspire-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à aller dans ta direction, dans tes directives. Oui, nous nous humilions devant ta face encore, et nous prions pour que tu règnes encore davantage dans nos cœurs, pour que nos prières soient centrées sur ce que tu désires. Aide-nous, Seigneur, à te plaire, à faire ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.